Maison des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Ce week-end, France Culture célèbre le sport et le temps des écrivains aussi, avec deux auteurs qu'on aurait presque envie de qualifier de sportifs, sinon de champions, Denis Grosdanovic et Christian Prigent. Bonjour Denis Grosdanovic.
Bonjour.
Alors champion, vous l'avez été, de tennis en 1963, champion de France junior.
C'est ça.
Cinq fois champion de France de squash.
Oui.
Et vous êtes aussi champion de paume. Alors courte paume, longue paume.
Courte paume.
Courte paume.
Il y a la longue paume et la courte paume.
Et la courte paume, c'est ce qui se rapproche le plus du tennis ?
Ah, c'est l'ancêtre direct du tennis. Ouais. Tout vient là, hein. 15-30-40, ça vient du jeu de paume. Hein.
Et tenaise aussi, tennis ?
Tennis, c'était un ancien mot français qui était tenez. Ouais. Celui qui était au service disait tenez à l'adversaire. Et la déformation phonétique en anglais a donné tennis. C'était un jeu qui quand même... Il y avait 250 jeux de paume à Paris intramuros à la fin du XVIIe siècle, donc c'était énorme.
Christian Prigent, vous connaissiez cette importance du jeu de paume, mis à part le serment dont on nous
parle toujours. C'est ce que j'allais vous dire, mais vous m'avez coupé ma réplique.
Désolé.
Non, je savais, comme à peu près tout le monde le sait, que le tennis tire ses origines de ce jeu de paume, mais je n'en savais absolument pas plus. Non.
Bah lui, il est champion, donc 15 fois, c'est ça, champion
15,
de France
oui.
Ah oui, bah
mais
bravo.
C'est un jeu confidentiel hein, maintenant. On n'est plus que 400 joueurs en France.
Oui, mais ça peut repartir très fort. Après cette émission.
Ça m'étonnerait, c'est pas l'esprit de l'époque.
On va essayer. C'est pas l'esprit de l'époque.
Non.
C'est-à-dire ? Mais
c'est un jeu où, en fait, pour gagner, il faut jouer élégamment.
Et donc, l'époque est vulgaire.
Il n'est pas question de faire de l'anti-jeu, comme on fait dans beaucoup de sports maintenant. C'est-à-dire que on a l'impression que les moines qui ont inventé le jeu au Moyen-Âge avaient prévu le monde moderne. Ce qui fait qu'on est obligé de bien jouer. On ne peut pas faire de l'anti-jeu comme maintenant. Vous voyez, à Roland-Garros, c'est boum-boum des deux côtés et il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de circonstances. À la paume, on ne peut pas le faire.
Et ce sont des moines qui ont inventé les... Ah oui, ils jouaient au jeu de paume en habit.
Alors,
en
soutane, ça a changé un peu, ouais. Mais par contre, le jeu s'est cristallisé à peu près au XVIe siècle. Et c'est pour ça que le cours a gardé la forme d'une cour de cloître.
On va en parler.
Paume, parce qu'au départ, ils jouaient à main nue, mais il y a très longtemps. Petit à petit, ils ont inventé un tambourin qu'on mettait au milieu avec des cordes. Le tambourin s'est élargi, ensuite ils ont mis un manche et puis la raquette est venue.
La prochaine fois, nous ferons, messieurs, cette émission dans la cour d'un cloître ou transformée en cour de paume. Mais vous êtes aussi, bon, mis à part le champion, écrivain. Vous avez commencé chez Corti avec Petit traité de désinvolture avant de publier le très célèbre De l'art de prendre la balle au bon. C'était paru chez Lattès, c'est disponible en point seuil, format poche, où vous donnez en une dizaine de textes de compétition un petit précis de stratégie philosophique, existentielle, à l'usage de tous ceux qui considèrent la vie peut-être comme un défi sportif, mais peut-être aussi comme un défi esthétique.
Oui, bien résumé, tout à fait ça.
Alors au hasard, des chapitres, un certain goût de l'effort, mécanique gestuelle et spirituelle, ou cosmogonie des balles tournoyantes. Depuis, vous avez disputé bien d'autres matchs contre l'art difficile de ne presque rien faire, autre livre de vous, contre aussi... La puissance discrète du hasard, autre titre de livre de vous. Et vous avez consacré chez Grasset, là, c'était l'année dernière, un livre au génie de la bêtise. C'est le titre, vous vous promenez chez Flaubert, chez Molière, chez Beckett, chez Sartre. Vous livrez une sorte de taxinomie des imbéciles pour réhabiliter, ça m'intéresse beaucoup, le bovarisme comme illusion vitale. Est-ce que vous diriez que le bovarisme est un sport, Denis Grosdanovic ?
D'une certaine manière, oui, parce que le bovarisme, c'est le fait de se faire énormément d'illusions à propos de tout, et surtout sur soi-même. Et donc, c'est le sport le plus pratiqué en chambre, ouais. De se faire des illusions sur soi-même. Et précisément, le sport lui-même, quand on le pratique assidûment, permet de se corriger pas mal à ce niveau, permet de corriger pas mal le narcissisme dont il est beaucoup question dans le livre.
Bonjour Christian Prigent.
Bonjour.
Vous êtes un des plus grands poètes de notre temps, formé par l'œuvre de Francis Ponge, que vous avez
en particulier,
étudié,
oui.
Jusqu'à
oui.
La thèse.
Oui, j'ai terminé par une thèse, effectivement, avec Barthes dans les années 75.
Ouais. Ouais, oui. Pourquoi Ponge ?
Au départ, c'était plutôt par une sorte de mortification, parce que la façon dont on lisait Francis Ponge à la fin des années 60, on va dire, ce qui remonte un petit peu loin, c'était une façon de, du fait de son rapport à l'objet, du fait du matérialisme qu'il affichait, en tout cas, c'était une façon de se guérir d'une poésie trop lyrique, trop répandue, trop subjective, et moi qui venais plutôt de cette tradition de poésie-là, via le surréalisme en particulier, je suis allé dans Ponge comme... vers une sorte de cure de désintoxication, en fait.
Voilà. C'est bien.
Voilà, et j'ai travaillé sur lui à partir de là, oui.
Avec Barthes, cette thèse, donc il était le...
Il était le patron de ma thèse, ouais. Comme on dit, comme on disait en tout cas.
Comment il était comme patron de thèse, Barthes?
Oh, il était fort peu patron, ouais. Fort peu thésard. Et je me souviens qu'il me disait toujours, quand je lui envoyais des fragments de ma thèse, en lui disant, il faudrait peut-être que je développe ce point, il m'envoyait toujours des petits mots, surtout ne développez pas. Mais bon, le rapport avec lui était charmant, surtout que moi, je l'ai pas... j'étais inscrit à l'école pratique des hautes études, mais comme j'étais en province, je n'assistais pas au séminaire, donc j'avais avec Barthes des rapports par correspondance d'une part, et puis des rencontres dans des bistrots, surtout pour parler un peu de cette thèse et de choses et d'autres, en fait. Voilà.
Quelle chance.
Je le prends comme tel, et aussi avec l'émotion qui va avec. C'était un personnage absolument délicieux.
Il nous manque. Alors, vous avez fondé aussi dans les années 70, en 69, hein, je crois, la revue TXT. Alors, qu'est-ce que c'est que TXT, revue d'avant-garde, de texte Valère Novarina, notamment, y écrit.
Bon, essayer de faire quelque chose d'autre dans la poésie et la réflexion sur la poésie que ce qui se faisait couramment à la fin des années 60, et donc en passant par Ponge en particulier. Et puis aussi, pour reprendre une formule qui faisait fureur à l'époque, l'idée qu'il fallait compter sur ses propres forces, c'est ce que disait le président Mao Tse-tung, vous vous souvenez peut-être.
Parfait, ouais. Oui, ça me dit quelque chose. Hein. Vous aussi, Dominique Grosanovich.
Il fallait compter sur ses propres forces et en particulier fonder une revue pour ne pas dépendre de l'édition, pour ne pas dépendre des autres revues, etc. Être son propre maître.
Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages de poésie, de fiction, d'essais sur la littérature et sur la peinture, publiés essentiellement chez POL, mais aussi chez Christian Bourquois, chez Ulma. Vous donnez régulièrement dans le monde entier des lectures publiques. Vous êtes aussi un grand poseur de questions, je pense à celle-ci, qui est d'ailleurs le titre d'un de vos livres paru chez POL en 1996. « À quoi bon encore des poètes ?»
Et vous j'avais repris cette question fameuse
de Hölderlin,
ouais. Voilà, bon, c'est une espèce de serpent de mer dans le lieu de la littérature et dans l'espace de la poésie en particulier, la question de cet à quoi bon de ce type de pratique dont rien dans le monde ne justifie qu'elle perdure. Mais le développement de ce tout petit livre, le livre qui porte ce titre, c'était plutôt de déplacer la question en disant, bon, finalement, se poser cette question-là n'a pas grand sens. La question qui a davantage de sens, bon, et qui est plus énorme aussi, c'est comment se fait-il que cette pratique existe? Comment se fait-il que dans un monde dont les...
Existe encore, vous dites, voilà.
Que ça existe... Pas seulement encore, mais que ça existe.
Parce qu'à l'époque d'Homère, bon, s'il a vraiment existé,
oui, mais
on
même
comprend,
à l'époque d'Homère,
les soirées étaient longues.
Même à l'époque d'Homère, je ne sais pas si ce type de rapport à la langue, ce type de passion de la forme, ce type de souci de prosodie, de choses très sophistiquées, en fait, avait un rapport très très étroit avec les préoccupations plus courantes des Grecs de l'époque. Mmh. Donc c'est toujours une énigme que cette préoccupation insiste comme cela et avec un accompagnement de passion et d'énergie démesurée.
Alors démesurée aussi comme votre passion pour le sport, puisque vous avez publié Chino aime le sport chez POL. Chino est une sorte d'alter ego. On parlait d'Homère, c'est une véritable épopée que vous nous donnez, puisqu'on a eu les enfances de Chino, on a eu les amours de Chino, et vous nous donnez donc ce troisième volet, Chino aime le sport. Alors c'est une trentaine de poèmes, répartis en quatre parties en fonction de leur longueur, enfin en apparence, peut-être d'autres choses, mais court, moyen, long, très long. Et vous revenez en vers sur les grandes figures sportives qui vous ont marqué, qu'ils soient footballeurs, cyclistes, athlètes, nageurs, boxeurs. Par exemple, Lev Yashin, l'araignée noire, le grand gardien de but. Garincha, le joueur de foot absolument, le dribbleur formidable. Il y a Bernard Hinault, Lance Armstrong, le cheval de course Gélinotte, le boxeur Gaston Mathieu. C'est une sorte de panthéon rimé dans une langue très rythmée que vous nous offrez. Beaucoup d'onomatopées, de l'italien, du russe, du latin. Toutes les langues s'entremêlent, des ruptures, des accélérations, des dribbles, des smashs, des uppercuts, des sprints. Bref, une sorte de sport total. La poésie, c'est un sport, Christian Prigent, et même un sport de combat?
C'est un sport dans la langue qui est une pratique comme une autre, sauf qu'elle n'est pas tout à fait comme une autre, puisque c'est de cette pratique qu'est faite la spécificité des êtres parlants que nous sommes. Donc c'est un type de rapport à la langue dont l'un des, pas le seul, mais dont l'un des projets, enfin selon moi en tout cas, est de faire sortir de la langue une sorte de dépassement de la langue par elle-même. Et je vois beaucoup de rapports entre ça et le sport, mais entre autres celui-là.
Le dépassement, quoi.
L'idée du dépassement des capacités corporelles, l'idée du dépassement de l'adversaire aussi, dès l'instant où la compétition est quelque chose d'inhérent au sport. L'idée du dépassement des limites dans lesquelles le corps humain se déplace, limites physiques, limites de vitesse, limites de légèreté aussi dans la capacité à s'élever pour sauter, par exemple. Voilà. Bon, et il me semble que dans l'histoire du fait poétique, il y a cette idée que l'usage qui est fait couramment de la langue est très très largement en deçà de ce que la langue peut.
Merci à tous les deux de participer à cette émission consacrée au sport et à la littérature et d'avoir accepté cette sorte de match qui va être très élégant, mais pas seulement. Nombreux sont les écrivains qui ont eu une fascination pour le sport ou qui ont été de grands sportifs eux-mêmes. Jean Giraudoux était recordman de France du 400 mètres. Avec une performance de 50 secondes. Jean-Paul Sartre, qui faisait de la boxe en amateur. Murakami, marathonien, qui a beaucoup écrit là-dessus. Notamment Autoportrait de l'auteur.
Oui, un livre déplorable, à mon avis.
En courant de fond, vous n'avez pas aimé?
Ah non, pas du tout.
Ah oui, qu'est-ce que vous avez plus?
Ah ben, l'esprit de performance, parce que moi, je lutte contre l'esprit de performance.
Denis Grozanovic, pardon. Ouais. Vous luttez contre...
Ouais, oui, parce que moi, je défends le sport amateur. Ouais. Moi, j'estime que... Mais alors là, cet esprit de dépassement de soi-même, c'est tout ce que je déteste, moi, dans le sport. Et autant j'aime Murakami, mais ce livre-là m'a semblé vraiment... Ça m'a semblé pathétique.
Donc vous n'êtes pas au sens étymologique, c'est de souffrance.
Oui, c'est souffrance pour vous. Cette valorisation par la souffrance, c'est une chose que je déteste dans le sport.
Donc quand Christian Prigent dit le dépassement de la langue par elle-même, presque, c'est pas une notion à laquelle vous souscrivez.
De toute façon, moi j'ai une conception de la poésie assez différente. Ouais. Et c'est certainement une des choses qui me tient le plus à cœur, mais disons que moi j'estime que les plus grands poètes sont ceux qui n'ont la plupart du temps pas écrit. Pour moi, c'est l'extase intérieure. Ouais. Et qu'on
ressent. Pensez à qui alors, du coup?
Ah non, mais à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est poète d'une certaine façon, comme l'écrit Paul Valéry au fronton du palais de Chaillot. Tout le monde est poète d'une certaine façon. Et il y a ceux qui arrivent à le traduire par les mots. Mais moi, la fondation de la poésie moderne, c'est la lettre de Lord Chandos de Hofmannsthal, c'est-à-dire l'histoire de cet écrivain qui n'arrive plus à écrire parce qu'il estime que les mots sont inadéquats pour rendre compte justement de ses émotions intimes.
On a compris que vous n'aimiez pas la performance, en tout cas vous défendiez le sport amateur, mais est-ce que quand même vous voyez des rapports entre l'écrivain et le sportif?
Pour moi, c'est l'esprit de précision. C'est-à-dire que pour moi qui était surtout un joueur de balle, quand la balle arrive vers vous à une certaine vitesse et que vous avez de votre raquette, vous ne pouvez pas poser le pied un demi-centimètre, presque millimètre, à gauche ou à droite, de manière inadéquate, parce que sinon, vous ne sentrez pas la balle. Donc, il vous faut un coup d'œil. Et je dirais que, pour moi, la littérature qui en vaut la peine, pour paraphraser une ancienne revue littéraire, c'est celle qui, en quelque sorte, sait utiliser les détails significatifs et suffisants, comme a dit Tchekhov. Et si, dans une description, on rate le détail, on rate tout. C'est-à-dire que le détail d'une précision incroyable. Et ça, c'est aussi une question de coup d'œil. Donc, c'est le rapport entre la littérature et le sport, c'est le coup d'œil et l'anticipation.
Mais sur le rythme ou sur le dépassement dont parlait Christian Prigent, est-ce qu'il n'y a pas quand même cette mission, cet impératif de discipline, de dépassement, quand même, y compris pour trouver cette précision dont vous parliez?
Non, c'est le mot dépassement qui me gêne. Discipline, bien sûr, au contraire, bien sûr, la règle, c'est ça qui est merveilleux. Mais le dépassement par rapport à une espèce de norme qui est imposée par des valeurs judéo-chrétiennes, ça c'est une chose qui me révulse.
Ben non, c'est dans le paganisme. Un autre que j'ai pas cité, mais je sais pas si c'était sportif lui-même, mais Pindare, quand il fait ses hymnes olympiques, il célèbre un petit peu comme vous, Christian Prigent, les grands athlètes de son temps. Il y a le goût du dépassement et on n'est pas dans un contexte judéo-chrétien.
La compétition, moi je trouve ça très sain. Moi, ce que je pense, c'est une question de dosage. À partir du moment où ça devient l'hyper-compétition, ça devient toxique. Un peu comme ces substances pharmaceutiques qui sont bénéfiques jusqu'à certains. Et puis, il suffit de quelques gouttes de plus et ça devient toxique. Et pour moi, il y a un passage très simple où le sport devient toxique, c'est le passage au sport professionnel. Et donc, la compétition, ça, c'est très sain, au contraire. Nos camarades ont toujours envie de se mesurer.
Mais dans la littérature, cette compétition-là, parce qu'évidemment, dans le sport, on comprend, mais est-ce que l'écrivain peut se conformer à l'image de l'athlète? Est-ce que c'est sain, ça, ou est-ce que c'est toxique?
Ah oui, ça, c'est plutôt sain.
Ah bon, quand même.
Oui, oui. Voilà. Ah, non, c'est le dépassement de soi-même que je n'aime pas, parce que ça implique souffrance.
Christian Prigent, vous qui travaillez votre langue, qui l'a slicé presque comme un service de McEnroe, entre autres, quand Denis Grosdanovic, une de ses expressions, parle de pure extase ludique, hein, qui serait un peu ce que vous cherchez aussi dans la littérature, est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion-là, pure extase ludique, qui pourrait finalement, on retrouve la notion de jeu dans ludique, donc la notion commune peut-être à la littérature et au sport?
Ben, je récuserais le terme extase parce qu'il a une connotation religieuse.
Oui.
D'abord, enfin pas seulement, parce qu'il a aussi une connotation sexuelle qui est plus sympathique, mais il a une connotation religieuse à laquelle moi je comprends qu'on y ait souscrit. Les poèmes de Pindare dont vous parliez ont un rapport avec l'extatisme religieux, puisque les athlètes que célèbrent les odes de Pindare ne sont pas vraiment des athlètes au sens moderne du terme, ce sont des célébrants d'un culte aussi. Bon, je récuserais aussi le mot pur parce que je ne vois pas ce qu'une exigence de pureté peut apporter de vivable à l'humain. Voilà, bon, je crois plutôt et assez profondément que la littérature, puisque c'est quand même de littérature qu'on parle, est plutôt une expérience de l'impur que de la pureté et un travail qui consiste surtout à ramener de l'impur dans la purification idéologique à laquelle la langue, dans une époque culturelle donnée, est soumise. Mais bon, le terme, alors le troisième terme,
ludique,
lui par contre est essentiel, parce que c'est, comment dire, l'impureté dont je parle, par exemple, et le dépassement auquel je faisais allusion, dans l'espace de l'activité sportive comme, avec tous les guillemets qu'on veut, dans l'espace de l'activité littéraire, il est l'objet même de ce qu'on essaie d'opérer. C'est-à-dire, ce système de petits ou de grands écarts avec les données du code, que ce soit les règles d'un jeu, ou que ce soit le code linguistique en tant que tel, bon, cette petite fabrication de menus écarts ou de grands écarts, et qui fabrique par leur addition, cette excentricité spécifique qu'on appelle un style.
Exactement, et un style de jeu aussi, par exemple. C'est vrai qu'il y a la règle du jeu au tennis, à la peau, mais c'est vrai, c'est ce léger écart dont parle Christian Prigent par rapport à la langue peut tout à fait s'appliquer aux gestes aussi du sportif, qui fait que on va avoir des services à la McEnroe ou des revers à deux mains ou des...
Oui, non, mais bien sûr, pour moi, le style, c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que, bon, pure extase, je tiens pas forcément. C'est jouer avec les mots. Les connotations, oui, on peut les tirer de ce côté-là, mais disons que c'était pris d'une manière beaucoup plus profane, pour ma part.
Est-ce que vous diriez que le corps de l'écrivain a la même importance que le corps du sportif, justement, dans l'acte d'écrire, dans le geste d'écrire?
Vous savez, ce que je crois, moi, enfin, ce que je crois, c'est pas je, Christian Prigent, qui croit ça, mais c'est plusieurs siècles de réflexion sur ces questions-là. Le corps d'un homme, ce n'est pas une pure anatomie, de toute manière. Le corps d'un homme, c'est ce qui fait que c'est un corps d'homme et pas un corps simplement bestial. Le corps d'un homme, il est tramé et tissé par le langage, de toute façon. Il n'est pas de corps d'homme qui soit simplement un sac de données anatomiques. Tout corps d'homme est tramé et tissé par le fait qu'il parle et par ce à quoi le fait de parler le soumet, à savoir un certain type de rapport au monde qui n'est pas celui de la non-médiatisation que permet le fait de ne pas parler. Le corps d'un écrivain, j'allais dire, mais j'ose à peine le dire, a plus forte raison puisque son premier souci, le premier de ses soucis, sans quoi un écrivain il n'en est pas un, c'est la question de la langue. C'est la question justement dont son corps, son inconscient, sa pensée, son rapport au monde est tramé par par ce rapport au langage. Donc, le corps sportif, je crois qu'il n'est pas non plus indemne de ce rapport au langage, puisqu'il a un rapport avec des règles, par exemple.
Mais précisément, vous qui avez, j'allais dire, qui avez eu les deux corps, Denis Grosdanovic, mais le corps de joueur de squash ou de joueur de paume, et le corps de l'écrivain aussi, comment est-ce que ça s'articule bien? Est-ce que c'est deux corps différents? Est-ce que c'est deux...
D'une manière plus pragmatique, je dirais que moi, quand je suis en période d'écriture, par exemple, je m'alimente et je prends les mêmes dispositions que avant des matchs. Quoi.
Ouais. Donc c'est quoi alors le
régime? Moi j'adorais plus m'entraîner que la compétition. Ce que j'adorais, c'était m'entraîner. Donc c'est une sorte de discipline.
Ouais.
Et pour moi, l'écriture, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est au fond, d'une certaine façon, moi j'aime écrire parce que chaque jour, je me fais mon cinéma. Mmh. C'est-à-dire que je décris ce que je vois et je pense que c'est un rapport avec cet entraînement sportif auquel je me suis soumis pendant des années et des années. C'est essayer de m'approcher au plus près de moi-même, selon je sais plus quel philosophe a dit ça, penser, c'est s'approcher au plus près de soi-même. Et donc, s'approcher au plus près de soi-même, ça demande un entraînement. Et puis,
quoi vos règles, justement, de préparation au corps de l'écrivain quand vous allez écrire?
Manger peu d'alcool, bien dormir, parce que moi j'écris le matin. Je me lève très tôt et puis je commence.
Donc comme pour un match.
Oui, et puis aussi ne pas trop se distraire. Donc c'est très proche d'une certaine façon d'un entraînement sportif.
Il paraît qu'on vous reprochait de lire des livres quand vous étiez en équipe de France.
Oui,
vous étiez obligé de vous planquer et qu'en fait on vous a même demandé d'arrêter ça, quoi.
Non, quand j'étais dans l'équipe de France à l'Institut National des Sports, l'histoire est assez drôle. J'étais plus jeune, j'avais 17 ans, on était une quinzaine. Et j'avais quand même compris qu'il fallait faire attention, donc j'avais une malle de livres et j'allais me planquer dans une espèce d'ancienne salle de musculation désaffectée. Et là, je lisais aux heures creuses, si on peut dire. Et puis un jour, il y en a un qui m'a surpris. Et puis alors, c'était Gérard Donneval, Les Filles du Feu. Il m'a dit, mon salaud, tu lis des livres porno. Et ensuite, il a glissé ça aux autres qui ont voulu me bizuter le soir même. Ils ont ouvert ma malle, ils ont vu tous les livres. Alors, l'esprit synthétique de la Chine, des trucs comme ça, je me souviens. Alors pour eux, c'était complètement inouï. Alors moi, j'ai commencé à hurler. Et à ce moment-là, on était juste à côté des boxeurs. Alors, les boxeurs, c'était l'équipe de France de boxe. Et puis, c'était un mi-lourd, un champion de France mi-lourd. Bon, alors, on respectait beaucoup les boxeurs à l'INS. Et le type est entré, il a dit, bon, attendez, vous faites trop de bruit là pour nous. Vous savez que nous, on se donne des coups assez sévères. Alors, on dort beaucoup après. Alors, laissez-nous dormir. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ils l'ont expliqué. Ah, c'est toi le petit, là. Il regarde les livres. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Que tu lis ça? Alors, je dis, oui. Il dit, mais tu sais, alors, soit tu arrêtes, soit tu continues, mais tu seras jamais un champion. Et en fait, il avait raison.
Et il faut pas lire pour être un bon champion.
Ah, non, c'est impossible. Parce que ça empêche l'instinct. Ouais. Si on se met à réfléchir, à analyser trop ce qu'on fait. L'instinct est perdu. C'est pour ça d'ailleurs que les champions ne font jamais de bons pédagogues. Vous ne pouvez pas imaginer un bon prof de tennis, par exemple, qui a été un champion.
Mmh. Et les poètes, alors, est-ce qu'ils font de bons pédagogues? Est-ce que les champions de poésie, comme vous, Christian Prigent, arrivent à transmettre?
Je ne suis pas sûr, mais s'ils y parviennent, c'est en enlevant leur casquette de poète, quoi, c'est-à-dire en étant la moindre proximité possible de leur propre et maniaque et subjective activité
et
de poète. Ouais. Il faut plutôt qu'ils s'approchent à ce moment-là de la poésie des autres, c'est-à-dire de leur capacité à dire à un disciple quelque chose, pas de leur propre poésie, mais de la poésie que font les autres. Sur cette question que posait notre ami, moi j'ai pas pratiqué le sport à son niveau, mais j'ai, dans les équipes de football dans lesquelles j'ai joué, le moment où j'étais jeune, il y avait aussi cette suspicion vis-à-vis des livres, vis-à-vis de ceux qui lisent. Mais je crois que c'est aussi pas seulement une question de défiance du retour de l'instinct, mais un refus du plaisir, un refus de la jouissance, un refus de ce type de plaisir et de jouissance énigmatique pour qui ne lit pas, qu'on voit apparaître de façon provocante dans les yeux de celui qui lit.
Ah, c'est bien dit.
Oui, c'est juste.
On continue avec vous, Denis Grozanovic. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Philip Glass, le Quatuor à cordes numéro 5.
Thank you. temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Philippe Glass, c'est le quatuor à cordes numéro 5, c'est le choix de Denis Grosdanovic, l'auteur de L'art de prendre la balle au bon. Il est avec nous pour cette heure consacrée au sport dans le temps des écrivains, avec Christian Prigent et son Chino aime le sport, où passent les ombres de Bernard Hinault et de Garincha. Denis Grosdanovic, pourquoi le choix de Philippe Glass ?
Parce que c'est un musicien contemporain que j'aime beaucoup, et d'une façon générale j'aime beaucoup la musique répétitive. Que ce soit l'opéra français, Rameau, Gluck, et ensuite la musique indienne, j'écoute beaucoup de musique indienne, et Philippe Glass fait la transition. J'aime beaucoup la musique répétitive, alors ça je m'explique pas très bien pourquoi.
Vous écrivez avec ou...
Non, ça non, j'arrive pas, mais j'écoute ça pour, après une session d'écriture un peu ardue, j'écoute ça et ça me fait du bien. Ouais.
Christian Prigent, vous avez ce même rapport aussi, après une session d'écriture, il vous faut aussi, ou avant une session d'écriture, il vous faut un peu de musique?
J'écoute fort peu de musique, c'est-à-dire mes séances de travail commencent toujours par la disposition d'un CD dans l'instrument ad hoc, généralement de musique vocale, époque Monteverdi, etc., parce que c'est à cela que va, je ne sais trop pourquoi, ma prédilection. Et puis je me mets à travailler et très très vite je m'aperçois que je n'écoute plus du tout cette musique que j'oublie, et je m'aperçois quelques dizaines ou vingtaines de minutes après que le CD s'est arrêté. Donc, il n'y a pas de rapport dans mon travail avec la musique que j'écouterai en même temps, en tout cas. Avec la musique que, par ailleurs, il m'arrive d'écouter, j'allais dire comme tout le monde, oui, sans doute, mais pas d'une manière programmative, en tout cas, ni guère pensée.
D'après ce que vous dites, quand même, ça vous inspire, ça vous fait démarrer, quoi.
Ben, j'ai besoin de ça comme un espèce de coup de pistolet de starter,
c'est
en
ça,
fait.
Ça
s'oublie, le pan. Et puis ce pan, l'écho de ce pan se propage, je pense, quelques minutes, voire quelques... Et puis ça muit, et voilà, on est en piste, et c'est fini, quoi.
Et c'est le moment du sprint. Denis Grosdanovic, vous avez été champion, hein, je le rappelais tout à l'heure, champion de tennis en 63, champion de France junior, 5 fois champion de France de squash, 15 fois champion de France de paume, de courte paume. Vous êtes aussi écrivain, vous avez commencé chez Corti avec Petit traité de désinvolture. Ensuite, il y a eu le célèbre De l'art de prendre la balle au bon chez Lattès, et qui est disponible en point seuil maintenant, et qui est une sorte de précis, de stratégie finalement existentielle à l'usage de ceux qui considèrent la vie peut-être comme un défi, mais pas un dépassement, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être comme un défi esthétique. Vous avez aussi écrit L'art difficile de ne presque rien faire. Vous avez publié plus récemment Le génie de la bêtise chez Grasset. C'est une promenade chez Flaubert, chez Molière, chez Beckett, chez Sartre. Vous parlez beaucoup de bovarisme comme illusion vitale. Vous ouvrez ce texte par une définition de Schiller. L'homme n'est pleinement lui-même que quand il joue. Vous pensez à la même chose que Schiller ?
Ah oui, tout à fait. Oui. Pour moi, comme je le dis dans le texte, j'ai l'impression que les seules heures que je n'ai pas perdues dans ma vie, c'était les heures où je jouais. Et pour moi, d'une certaine façon, la littérature aussi est une forme de jeu. Donc, c'est un jeu, disons, avec la vie et la mort. C'est-à-dire, c'est surtout résister, finalement, la littérature, c'est résister à l'idée de la mort. C'est ce qui nous... Parce qu'au fond, la mort en elle-même, la mort, comme l'a dit l'Eléate, elle ne nous concerne pas. Quand elle est là, nous n'y sommes plus, et quand nous y sommes, elle n'est pas là. Mais non, c'est l'idée de la mort qui est terrible. Donc, c'est la perspective de la mort. Et je trouve que la littérature permet de lutter contre cette angoisse.
Comme le sport, d'ailleurs.
Ben oui, parce que là, dans le sport, on s'oublie. Et comme pour moi, et comme je l'explique dans le livre et dans le texte que je lirai tout à l'heure, c'est une façon de se mettre en harmonie avec ce que les taoïstes appellent le cours des choses.
Et ce dont parlait Lucrèce dans le De Rerum Natura, on le lit maintenant. Voilà, c'est un extrait, c'est au début, ça fait partie de ce chapitre Cosmogonie des balles tournoyantes. On vous écoute.
Alors ça, c'est une expression que j'ai pris à un poète que j'aime beaucoup qui s'appelle Jacques Reda. Ouais. Donc je lui ai emprunté cette...
Voilà, qu'il en soit remercié. On vous écoute, Denis Grosdanovic.
Durant mon adolescence à Roland-Garros, observant la ferveur silencieuse pendant les échanges de ces milliers de têtes captivées et réglées sur le mouvement pendulaire du météore jaune qui filait d'une raquette à l'autre, je me suis remémoré plus d'une fois cette théorie que j'avais découverte entre-temps, qui fait remonter les jeux de balle à un rite de magie astrologique pratiqué par nos lointains ancêtres et destiné à reproduire en miniature les trajectoires des planètes censé influencer nos destins, afin, à tout le moins, d'en simuler la maîtrise. Je n'ai jamais bien su ce qu'il fallait penser de cette théorie. Mais ce qui est certain, c'est que les champions des petites ou plus grosses balles, lorsque nous les contemplons dans leurs œuvres, nous procurent souvent la délicieuse illusion, le bref temps d'un match, d'être capable de maîtriser merveilleusement le hasard, de ne pas être entièrement soumis aux aléas du sort. Et je me demande si ce n'est pas dans cette magie-là que réside notre fascination pour les balles tournoyantes. Les champions des jeux de balles ne seraient-ils pas alors, après tout, des sortes de héros mythologiques modernes poursuivant et maîtrisant parfois pour quelques secondes extatiques la petite planète symbolique de nos désirs les plus fous ? De la même façon, au cours des nombreux matchs qui se sont éternisés durant ma vie sportive et où la chance paraissait hésiter à désigner un vainqueur, le score ne cessant de se rééquilibrer comme pour mieux remettre l'arrêt du gain aux caprices du sort, je n'ai jamais manqué d'imaginer, au-delà de l'engourdissement hypnotique qui nous gagnait, que nous avions à notre insu, mon adversaire partenaire et moi, été mis sur orbite et participions désormais d'une très ancienne combinaison stellaire. Cette sensation prit d'ailleurs tout son sens le jour où je lus cette phrase de Lucrèce qui se grava dans mes mémoires à la manière d'une maxime « Regarde les étoiles comme si tu tournais avec elles ».
Merci Denis Grozanovic pour cette lecture de l'art de prendre la balle au bon. Le sportif doit avoir une inclination cosmique comme l'écrivain, voilà, cette espèce d'adéquation de son propre rythme avec un rythme qu'il dépasserait, le rythme de la nature peut-être.
Pour moi, oui, c'est cela, et c'est une des choses que je trouve terrible maintenant dans le sport moderne, c'est que on en arrive à jouer dans des endroits qui n'ont plus aucun rapport avec la nature, alors que quand on voit pour ce qui est du tennis, qui est ma spécialité, ou même le football, ça se pratiquait dans des endroits plus ou moins bucoliques au départ, et donc inconsciemment, il y avait toujours un rapport avec la nature. Le grand poète Wordsworth raconte dans son prélude que quand il était jeune, avec ses camarades à la campagne, il ne faisait absolument pas attention à la nature et que son seul but était de courir plus vite que le camarade, de patiner plus vite sur les temps gelés, de grimper plus vite aux arbres et tout ça. Mais qu'à cette époque, eh bien, il se sentait plus proche de la nature que plus tard quand il a fait des promenades poétiques. Donc je trouve ça très intéressant, cette proximité qui est induite par le jeu.
Quand avez-vous pris conscience, quand l'envie est-elle venue d'écrire sur le sport ?
Ah, moi j'ai commencé à écrire à 14 ans. J'ai pris des notes à partir de l'âge de 14 ans tous les jours. J'ai maintenant à peu près 220 carnets. Tous les jours, je prends des notes sur ce qui m'intéresse.
Y compris sur votre pratique sportive ?
Ah oui. Donc j'ai des carnets de toutes sortes. Je suis l'homme des carnets. Donc,
et qu'est-ce que vous écriviez par exemple après un match de tennis ? Vous écriviez ou...
Au départ, je décrivais le match perdu ou gagné avec ma déception et tout ça. Mais en même temps, je décrivais ces brèves extases ludiques que j'avais pu avoir. Alors, j'essayais de les décrire parce que c'est assez difficile. C'est une chose un peu impalpable. Mais oui, j'ai toujours fait ça, oui. Entre autres, je me souviens d'une fois où j'étais en finale du championnat de France de Paume qui se déroule en 5-7. Et j'étais mené 2-7 à 0 et 3-0 par mon adversaire. Et j'étais très nerveux. Et d'un seul coup, je me suis dit, bon, à partir de maintenant... Tu vas jouer uniquement pour te faire plaisir. Tu ne penses plus au gain. Et j'ai remonté tout. Et j'ai eu peur parce qu'arrivé à 5 partout, au 5e, je me suis dit, là, je vais pouvoir thésauriser. Donc, je vais me crisper de nouveau. Et non, j'ai fini. Et ça, je l'ai écrit le lendemain parce que ça a été un moment merveilleux. Je me suis relâché. Et d'un seul coup, je suis passé ce qu'on appelle en sport passé dans la zone. C'est les psychologues américains qui... On le voit bien avec Federer. Là, je fais un saut. Mais Federer, on le voit bien. Il est en recherche de concentration. Et d'un seul coup... son visage devient limpide, on dirait un enfant à toute attention à ses jeux dans sa chambre, et il enchaîne les coups merveilleux parce qu'il ne fait plus qu'un avec la balle, il ne fait plus qu'un avec l'adversaire, et il est passé dans la zone.
Alors passé dans la zone de quoi ? La zone avec un grand Z ? Qu'est-ce que c'est cette zone ?
Cette zone, c'est une dimension psychique de dépersonnalisation intense, qui fait que d'un seul coup, on ne sait plus qui on est, et on ne fait plus qu'un, donc tout est en harmonie.
Et il y a l'équivalent en littérature, vous diriez ?
Ah oui,
est-ce
oui,
qu'on passe dans la zone
Il me semble qu'il y a des tas de moments, quand on sent qu'on a réussi une phrase, on sent qu'on est passé dans la zone.
Oui, quand ça semble se dicter de soi-même, presque.
Voilà, exactement. Ouais.
Ouais. Vous êtes d'accord, Christian Prigent, avec ce passage dans la zone?
Voilà, qui est un passage parfois difficile. Enfin, on y vient assez difficilement. Il faut souvent beaucoup de temps, beaucoup d'hésitation, beaucoup de choses ratées avant d'avoir tout d'un coup la sensation que la langue roule toute seule et vous impose sa jubilation.
Et qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que vous, qui avez bien connu le sport, Denis Grozanovic, vous avez lu des choses là-dessus en termes de neurosciences ou de ce passage dans la zone qui donc touche les grands sportifs comme des écrivains, s'explique par quoi?
Moi, vous savez, j'ai fait beaucoup d'études en philosophie aussi. Et pour moi, c'est, là je fais allusion à Bergson, c'est mettre en perse l'inconscient, qui selon Bergson, n'est pas dans notre esprit. L'inconscient est une espèce de nuage flottant, ça a rapport avec l'inconscient collectif. Et on met en perse cette chose-là, et d'un seul coup...
En perse.
Ouais. Oui, c'est-à-dire, d'un coup, ça descend sur nous. C'est comme quelque chose qu'on crève, ce nuage, et puis il pleut sur nous. Et la personnalité personnelle, ça peut dire, n'est plus en cause. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, les choses s'organisent, parce que c'est le monde qui vient sur la page. Quoi.
Et diriez-vous que vous essayez de chercher une écriture physique, une écriture sportive, en fait, quand vous écrivez le sport?
Ah, moi, pas du tout, parce que ça, c'est Hemingway. Hemingway dit, il a beaucoup parlé de ces choses-là, il a dit, lui s'intéressait beaucoup à la boxe, si vous voulez décrire un match de boxe et rendre l'atmosphère, il faut pas rendre le son des coups, il faut parler des chaussures qui crissent sur le sol. Voilà, ce genre de détails significatifs et suffisants qu'il faut pas rater.
C'est-à-dire quoi, le déplacement du regard, au fond, finalement, au lieu de regarder la balle ou les...
Et du son. Mais moi, je ne m'inscris pas dans cette dimension-là, parce que comme vous avez pu le voir, mon style est un peu 19e siècle. Et moi, je suis plutôt dans une optique proustienne.
Hoffmannsthal, vous nous avez dit tout à l'heure.
Et Proust. Ouais. Donc, disons que mon style à moi est délibérément classique.
Parler du sport, parce que vous pensez que vous touchez
pour parler
plus.
Tout, pour parler
mais,
tout.
Mais précisément, là, sur le sport, vous pensez, grâce à ce style, finalement, trouver aussi peut-être la distance qui conviendrait pour parler d'un...
Oui, c'est
un sport qui est très, très, enfin, qui est par coup saccadé, violent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de trouver un rythme similaire.
C'est-à-dire que moi, c'est surtout la dimension psychologique qui m'intéresse dans le sport. Donc, à partir de ce moment-là, la description physique est assez peu prise
en compte. On a lu, c'est très contemplatif. Oui, voilà, et puis, il y a ce passage où vous êtes en train de jouer au tennis. En fait, il y a des projecteurs. Et puis, les projecteurs claquent, on ne sait pas pourquoi. Et vous découvrez le.
Ah, mais c'est un ami qui a eu ce moment génial en disant oui, c'était en Espagne, oui, les projecteurs claquent. Et dit, t'as vu, c'est un jeu encore plus sérieux qui se joue là-haut,
voilà,
en parlant
des étoiles, magnifique. On continue avec vous, Denis Grozanovic, et vous, Christian Prigent, dans ce temps des écrivains consacré au sport. On va parler de Chino. Hein. C'est votre alter ego, c'est votre moi possible. Chino.
C'est un de mes mois. Vous savez, on est plusieurs dans sa peau. Hein, donc, c'est un de mes mois.
Quelle chance vous avez.
Non, je vis plutôt ça comme une malchance. Enfin, comme, c'est quand même un peu embêtant d'être hanté par des quantités de petits démons comme ça. Mais très très vite, au départ, quand j'ai commencé à écrire le premier volume du cycle Les Enfants Chino, je travaillais beaucoup parce que c'était une commande qu'on m'avait faite à partir de tableaux de Goya. Et donc, j'avais créé un petit personnage comme cela qui circulait dans les tableaux de Goya et qui vivait ce qu'il y voyait comme si c'était des scènes réelles. Il rencontrait les personnages que Goya peint, etc. Et je lui avais donné au départ le prénom de Goya, Francisco, en espagnol. Et peu à peu, ce personnage, évidemment, a évolué et est devenu plus proche de ma propre biographie, de ma propre enfance. Mmh. Et donc, il s'est appelé François. Mmh. Et de la Bretagne, d'où je viens, le diminutif de François, c'est Chino.
C'est voilà. Chino, voilà, petit François. On y revient tout de suite à Chino Homme le Sport chez POL. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi Bartali de Paolo Conte.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellophane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Fra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città.
e i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzara, zazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E travolta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
Paolo Conte, Bartali, c'est le choix de Christian Prigent, à qui nous devons. Chino aime le sport chez POL et qui est avec nous et avec Denis Grosdanovic dans ce temps des écrivains consacré au sport pour ce week-end de sport sur France Culture. Pourquoi ce choix musical Bartali? C'est Gino Bartali, c'est ça le...
Oui, la raison est très très simple, c'est-à-dire que dans le livre, dans Chino aime le sport, il y a un poème qui est consacré à Bartali, que évidemment moi je n'ai pas vu courir. Et son deuxième Tour de France, c'était en 48, enfin le deuxième qu'il ait gagné, c'était 48. Moi j'avais 3 ans, donc. Mais mon père m'en parlait beaucoup. Pour mon père, comme pour pas mal de gens de cette génération, Bartali c'était une idole. Alors là, c'était une idole pas seulement parce que c'était le grand champion cycliste concert, enfin que certains savent encore, mais c'était aussi quelqu'un qui pendant la Seconde Guerre mondiale avait joué un rôle très important dans la résistance italienne, en transportant à travers la Toscane sur des parcours quelquefois de 300 km par jour des faux papiers, des documents qui ont permis le sauvetage d'un assez grand nombre de juifs, d'où le fait que le nom de Gino Bartali figure au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Voilà, comme mon père était un peu branché politique, on dira. La connexion des deux lui plaisait beaucoup.
Et à vélo,
oui. Caché dans le guidon, dans les tubes du guidon. Enfin, c'est ce que j'ai lu.
Alors, Chino aime le sport, c'est le troisième volet de l'épopée de Chino. Je ne sais pas comment d'ailleurs si vous lui donnez un nom. On a eu les enfances de Chino, les amours de Chino, et là c'est le rapport de Chino avec le sport. Alors, je rappelle, évidemment, Christian Prigent, vous êtes l'un des plus grands poètes de notre temps. On a parlé de Francis Ponge tout à l'heure, auquel vous avez consacré une thèse, dirigée par Barthes, quelle chance. Vous avez une œuvre extrêmement copieuse, il y a des essais sur la littérature et la peinture, de la poésie, de la fiction aussi. Ce Chino aime le sport, c'est une sorte de panthéon, finalement, sous la forme de poèmes. Il y a quatre parties en fonction de leur longueur, court, moyen, long, très long. Et il s'agit de revenir sur des grandes figures sportives qui vous ont marqué, de tous les sports. Là, on a parlé du cycliste, mais il y a des footballeurs, des athlètes, des nageurs, des boxeurs, Leviachin, le grand gardien de but, Garrincha, Bernard Hinault, Lance Armstrong aussi. Vous mélangez toutes les langues, vous accélérez, vous ralentissez. On parlait tout à l'heure de votre poésie presque comme sport. Chino, il y a eu parfois de la prose, parfois de la poésie. Là, il s'agit de poésie. Est-ce que la poésie permet de dire sur Chino, votre personnage, ce qu'un roman, par exemple, ne pourrait pas dire?
Un roman, un récit serait sans doute possible. Le premier volet, c'est une sorte de roman, celui qui s'intitule Les enfants Chino. Sur cette question du sport, je ne voyais pas les choses comme cela, parce que, enfin, pour diverses raisons dont je ne suis pas le maître de toutes, mais il y en a une au moins, c'est que moi je trouve qu'il y a toujours dans le sport de compétition, en particulier le sport professionnel, une dimension épique, enfin qui est construite pas tellement par le sport lui-même, mais par le récit qu'on en fait, et que la forme poétique, avec ce qu'elle véhicule de la tradition épique, justement, de la tradition lyrique, la tradition des hymnes, même si c'est pour la renverser d'une manière bouffonne, peu importe.
Bon, oui, la tradition, ce que vous amusez avec
voilà, la forme, le poétique, enfin la forme poétique, le souci poétique me semble
plus proche comme ça. Enfin, en tout cas, de l'esprit que je voulais donner à ce livre, qui est quand même au départ axé sur des grandes figures de sportifs vues par un enfant, et puis ensuite vues par l'enfant qui est resté présent dans l'adulte.
Enfin, un enfant qui parle toutes les langues, quoi.
Oui, parce que c'est pas l'enfant au sens l'enfant situé dans le temps de l'enfant, objectif ouais. de l'enfance.
C'est l'infance.
C'est l'infance ou alors celui qui fonce beaucoup plus que les autres, pour reprendre l'étymologie. Mais c'est l'enfant tel qu'il est resté présent dans la puérilité fascinée de l'adulte.
Ouais. Voilà. Mais en même temps avec un lien. Donc tout à l'heure on parlait de Pindare et des odes pindariques, presque ces tombeaux vivants dressés aux grands champion. Cette filiation-là, vous vous y inscrivez en tout cas.
Oui, l'idée de tombeau en particulier. Alors les poètes ont beaucoup pratiqué ça, mais plutôt pour écrire des tombeaux de leurs prédécesseurs dans le monde de la poésie. Tombeau d'Edgar Poe, par exemple. Bon. Mais moi, l'idée de dresser des stèles à la fois moqueuses et admiratives à ces grandes figures qui ont fasciné mon enfance et mon adolescence et continuent d'une certaine manière à me fasciné, quelle que soit la dose d'esprit critique qu'on doit bien sûr mettre dans cette fascination. Bon, cette idée-là était... je la trouvais charmante. Quoi. C'est celle-là que je voulais creuser. Oui.
Les athlètes méritent ça, méritent un tombeau. Ces grandes figures qui ont bercé votre enfance.
Ouais, je ne sais pas s'ils les méritent en soi, c'est-à-dire s'il y aurait un critère objectif qui
non,
pourrait
mais pour
dire...
Vous.
Mais ils méritent cette fascination pour le pouvoir d'exaltation qu'à tel ou tel moment ils vous ont donné. Et en particulier, puisqu'on parlait de Bartali tout à l'heure, il y a eu un temps avant la télévision, comme vous savez. Bon, il y a eu un temps avant l'image. C'est-à-dire que les grands sportifs, les Bartali, les Garrincha, etc., on ne savait de leurs exploits que ce que des récits toujours plus ou moins épiques, ceux de Blondin, ceux de bien d'autres dans l'équipe, nous faisaient. Il n'y avait pas d'image. Quand on voyait ces sportifs en chair en os, si je puis dire, et en métal quand c'était des vélos, ça faisait devant vous pendant 15 secondes et c'était fini. Donc, et plus c'était fini, plus l'image manquait. Plus le discours, la volubilité du discours et sa capacité à devenir légendaire remplissaient ce vide. C'est ça que je trouve fascinant.
Vous avez été influencé l'un et l'autre justement par des grands écrivains du sport. Vous parliez de Blondin là à l'instant. Il y a des gens qu'on comptait vraiment.
Pour moi, le meilleur, c'est Jacques Perret.
Ouais.
Article de sport, ça c'est extraordinaire, vraiment. Et très drôle en plus.
Bon, même, il y a des articles d'Aragon sur le Tour de France, Buzzati, par exemple. Et puis récemment, alors un livre que je recommande, si je puis me permettre, cette petite
publicité. Vous avez raison.
C'est le livre de Paul Fournel sur Anquetil.
Ah oui, bien sûr.
Magnifique.
Voilà. Oui, tout à fait.
Christian Prigent, est-ce qu'on peut vous écouter lire Danse pour Garrincha?
Le principe de ce petit texte, c'est d'essayer de trouver des rythmes qui évoque ce que Garrincha était pour l'enfant que j'étais. C'est-à-dire, évidemment, il y a un rythme de samba pour la raison que Garrincha était brésilien. Et puis, il y a, en fin de texte, un rythme de marche plus lent, parce que ça évoque une promenade que je fais tout récemment à Copacabana, sur les traces, entre autres, de ce personnage-là.
Garrincha.
Mais la première partie, c'est une gavotte, c'est-à-dire c'est une danse bretonne. Et ça fait référence à 1958, quand je suis gamin, et que on parle de Garrincha dans les vestiaires de l'équipe de football.
De Saint-Brieuc.
De Saint-Brieuc, voilà, dont je suis membre et
parfait.
Porteur de chaussettes tricotées par ma grand-mère. Je vais bien rire, les copains. Gavotte. En avant, Saint-Brieuc 1958. En ce temps-là, ton mollet gratte, quand vers le but tu carapates, en chaussettes de foot de laine, qu'a tricoté grand-mère en veine, suite à quelques succès scolaires, d'amour pour ton anniversaire. Ne prends pas froid, Vrilous, et dis, le dimanche aussi, il y a de la pluie. En arrière, si ça tient bien, c'est pas magique, c'est par l'effet de l'élastique, de centimètres de gros grains, ça fait rigoler les copains, couleur soutien-gorge vieux rose, qui fait respirer, ça repose, après la crêpe pour les ribots, le corset qui tient les abdos. Défilé. Mais au vestiaire, on se renforce, au jaja chaud, sucré, qui corse la liesse et le gosier en pente, sa chaloupe sous la soupente, en chœur et slip bateau, on danse. En moins breton, question cadence.
Merci Christian Prigent. Donc, danse pour Garincha. Voilà, ouais. Il y en a plusieurs. Vous avez
c'est formidable
lu la gavotte.
Je le lis, parce que je l'avais lu, moi. Ouais. Et j'ai eu un peu de mal. Et quand il le lit, tout s'éclaire. Ça, c'est extraordinaire. C'est excellent.
La gavotte, c'est comme ça. On va en avant.
Oui. J'avais pas trouvé le rythme en lisant.
En se tenant par le petit doigt, comme
oui,
ça.
Oui, oui. Excellent.
Moi, je sais pas danser la gavotte. Hein. Mais je l'ai vu faire.
Donc, vraiment, vous nous disiez, en fait, en parlant de la gavotte, la samba, pour vous, en fait, dans Chino aime le sport, il faut trouver, donc, la forme, le rythme le plus adéquat pour vraiment coller, non pas à la vie seulement de ces grands sportifs que vous nous donnez à lire, à relire, mais formellement nous faire sentir presque leur sport dans vos vers.
Il faut si possible. Vous savez, on parlait de Francis Ponge. Ponge dit une chose, enfin, qu'il n'est pas le seul à avoir dit, qu'en poésie, il ne s'agit pas simplement de dire quelque chose, mais de faire ce que l'on dit. C'est-à-dire que la langue elle-même, la manipulation des faits de langue, la distorsion plus ou moins importante qu'on fait subir à la langue sous sa forme classique, disons, doit donner une sorte d'équivalent du thème, du sujet, de la question qu'elle traite. La prosodie, par exemple, la prosodie en soi, la prosodie séculaire, qui est une forme ostensiblement artificielle, même quand cet artifice disparaît parce que le contenu s'impose, dans l'Alexandrin racinien par exemple, bon, c'est une formule respiratoire, c'est-à-dire c'est une contrainte respiratoire particulière qui modifie le temps du souffle normal, disons, pour faire simple. Voilà. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, ça marche que rarement, on maintient cette exigence mais là, plus ou moins de rigueur,
mais, là
mais
encore
c'est mon but quand même.
Mais là encore plus, puisqu'il s'agit de sportifs et que vous parlez parfois de sprint, vous parlez
oui,
de...
Oui, alors après, par exemple, il y a un poème dans ce livre qui est consacré à Tom Simpson, le cycliste que j'ai connu parce qu'il avait fait ses classes de cycliste au club olympique briochin, donc à Saint-Brieuc, mais qu'on connaît surtout pour sa mort sur le Mont Ventoux au Tour de France. Comme j'évoque la figure de ce sportif mort et dans ces conditions tragiques, désolantes, qui produisent une émotion, quoi. Donc, voilà, je choisis une forme qui est à la fois une forme de tombeau et de montée au Golgotha avec une première station, deuxième station, troisième station, voilà. Et puis des quatrains qui sont structurés de la manière la plus simple possible pour maintenir cette gravité.
On parlait de dépassement tout à l'heure. Je voudrais qu'on dise un mot quand même de l'engagement. L'histoire est évidemment très présente dans ces tombeaux, hein, pour grands sportifs disparus. Vous parlez à plusieurs reprises du boycott des Jeux Olympiques de 1984 par les pays du Bloc de l'Est, notamment la pièce Sotomayor. Vous parlez du nazisme dans L'Empas des Dromies, des points levés de Tommy Smith et John Carlos en 68 en signe de protestation contre la ségrégation raciale. C'est dans Tommy Smith et John Carlos, un point, c'est tout. Écrire le sport, c'est aussi écrire un engagement politique. Vous parliez de votre père aussi, qui était féru de politique. C'est vraiment lié?
Je crois que si on raconte l'histoire du sport, enfin, je dis les choses très simplement, délibérément. Si on raconte l'histoire du sport de 1940, disons, à nos jours, on raconte par ce bout de lorgnette un peu plus petit, mais peut-être aussi plus chargé d'émotions intimes. On raconte, en fait, l'histoire avec un grand H. On raconte la politique entre les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, l'histoire de Septembre Noir, les affaires de dopage à Cuba, le dopage d'État dans les pays de l'Est, qui est représenté par la figure de Marlies Goehr dans mon livre, enfin, etc., etc. On marque les grandes étapes de ce qui a été l'histoire dramatique et parfois comique aussi, de la fin du XXe siècle et du début de notre siècle.
Et pourtant, vous dites « m'en fous »,« ciao », parfois l'histoire dans votre pièce sur Christopher Froome, justement.
Oui, mais parce que c'est là aussi, vous parliez de la difficulté d'écrire sur le sport, elle est réelle. Maintenant, personne n'est forcé d'écrire sur le sport. Si on écrit sur le sport, c'est qu'on y prend un plaisir et qu'on y trouve un enjeu. Bon, mais l'une des fonctions du sport, et qui n'est pas une fonction que moi je méprise du haut de je ne sais quelle conscience intellectuelle plus grave, c'est aussi de distraire de ces choses-là et de laisser ouvertes des fenêtres, les fenêtres du légendaire dans la violence de l'histoire.
Pour terminer, j'aimerais savoir si vous pouvez nous lire une dernière pièce et votre texte sur Yachine et Maïakovski. Yachine 1, Maïakovski 0. Comme si, au fond, le sport gagnait sur la littérature, sur la poésie. Est-ce que vous acceptez de nous lire ce morceau?
C'est un texte un peu difficile à lire parce qu'il est complexe.
Il y a du russe dedans.
Ouais, alors il y a pas seulement du russe, mais il y a un feuille. Mais c'est surtout que moi, m'a toujours frappé, je pense que je suis pas le seul, la ressemblance physique entre Yachine et Maïakovski. Ouais. Quand on regarde des photos du Maïakovski 1917-18 et celle du Yachine 1950, c'est absolument frappant. Ouais. Déjà, ils ont la même casquette, comme disait ma mère qui me disait, tu ressembles à ton grand-père, t'as la même casquette. Yachine 1, Maïakovski 0. Vladimir Maïakovski à pleine voix, morte au temps du VM, s'égosille, da vai, via flûte vertébrale pour l'héros du travail socialiste et du dynamo réuni. Yachine, araignée noire à bio-mécanique envergure dans les buts soviet. Car gapette prolo plus mâchoire, idem plus double mètre égale égo au ciel d'histoire, futuriste qui, bip bip, pense Spoutnik, non, dia, volodia, dark frac ou canari constructiviste, mais u, spiderlef, Léon, lévitant au nuage sans pantalon.
Merci Christian Prigent pour cette lecture. Dernière question qui s'adresse à tous les deux. On a vu donc cette pièce poétique porte le titre Yachine 1, Maïakovski 0, donc le foot 1, la poésie 0. Bon, c'est peut-être le début du match, la poésie va peut-être égaliser. Mais est-ce que vous pensez que ces noces entre la littérature et le sport ont encore de l'avenir, Denis Grosdenovitch?
Moi, je voudrais terminer sur une citation d'un poète belge un peu oublié qui s'appelle Robert Goffin et qui était boxeur. Et qui a dit « Je plains ces intellectuels qui n'ont pas été sevrés au lait sportif du lyrisme ».
Ah, très bien, c'est très beau. Christian Prigent.
Ouais, je pense la même chose. Vous parlez de noces, bon, il y a un compagnonnage comme ça, parce que quand on écrit sur le sport, et tout en pratiquant du sport par ailleurs, on est à la fois dans une fascination et dans une prudence. Il y a une dimension épique. La dimension épique du sport elle génère du lyrisme. Bon, ce lyrisme, il est toujours un peu naïf. Hein, il y a une naïveté dans cet enthousiasme. Donc, la sensation de cette naïveté, si on est un écrivain un petit peu lucide, génère simultanément une espèce d'ironie, enfin de volonté de sens critique, et c'est cette volonté de sens critique qui finit par faire enjeu et sujet, parce qu'il faut penser le sport dans son articulation à l'histoire, à la politique. Ouais. Il faut objectiver aussi cet enthousiasme. Mais bon, je crois que ça, c'est perdurable, disons.
Parfait. Donc, on continuera à boire ce lait dont vous nous parliez. C'était quoi?
Le lait sportif du lyrisme.
Le lait sportif du lyrisme. Merci à tous les deux. Merci. Merci Denis Grosdanovitch. Merci Christian Prigent. Je rappelle le titre de vos livres. Donc, Chino aime le sport, c'est chez POL. Et Le génie de la bêtise, chez Grasset, où vous parlez notamment du bovarisme comme illusion vitale.
Voilà. Donc, je parle de Francis Ponge aussi.
Et de Francis Ponge. Bah voilà, c'est parfait. On va l'offrir à Christian Prigent. Et puis, quand même, de l'art de prendre la balle au bon que vous pouvez trouver chez Lattès, mais aussi en Point Seuil. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Yasmine Cara, Yann-Laure Chanel à la réalisation, Claire Levasseur à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter de manière éternelle sur franceculture.fr. 7h sur le sport à l'occasion du week-end sport sur France Culture avec deux écrivains champions, Christian Prigent et Denis Grosdanovitch.